13.
Élite.
Martine.
Oh, et les autres là.
À manger.
Parce que j'ai la haine. Parce qu'à un moment, on doit prendre le micro.
Parce qu'on a envie d'être entre.
Parce que plein de femmes dans le monde font des trucs et qu'on n'en entend jamais parler.
Parce qu'on en a marre qu'on parle à notre place. Parce que j'ai envie de rigoler. Avec des copines.
Parce qu'on t'emmerde.
Parce qu'on veut apprendre ensemble.
Parce qu'on pourra se la péter en 10 ans.
Attends, je dois faire un montage son ce soir.
Parce qu'on veut écouter de la musique faite par des nanas.
Parce qu'il y a déjà 823 émissions faites que par des mecs et que tout le monde trouve ça normal.
Parce que tu veux garder tes poils.
Parce que ça va en faire chier certains.
Parce que tu veux parler, toi.
Pour être forte et solidaire.
Pour s'échanger des idées, des savoirs, des pratiques et des stratégies.
Pour draguer.
Pour partager nos goûts et nos envies.
Pour parler de la mécanique, de la plomberie, de la couture, de la couture, de la politique, de la musique, de la cuisine.
Pour lutter.
Parce que tu veux garder tes bourrelets.
Ou pas, hein.
Parce que les mecs, ils te font chier dans la rue.
Parce qu'on parle jamais du clitoris.
Parce que je ne suis ni ta moitié, ni une demi-portion.
Parce qu'on dit que c'est sale et que tu pues de la chatte.
Parce que t'es trop ou pas assez.
Parce que tu manges le gras.
Parce que je ne veux plus me taire.
Pour qu'on puisse parler.
Parce que, tout simplement, nous voulons conquérir le monde.
Le monde. Le monde.
Et
Ah ouais, c'est ça.
Il y a d'autres qu'on doit en faire.
Le sexe.
Non, on a oublié le cul, merde.
Bonjour, vous êtes sur l'émission Lilith, Martine et les autres, l'émission féministe de Radio Canu, avec aujourd'hui donc Tatiana, la personne qui parle le plus vite au monde, Sophie, la personne qui parle le plus lentement au monde, et moi, la personne qui fait les plus mauvaises blagues du monde. Et cette émission donc va être consacrée à l'actualité en fait, parce que comme on est autour du 8 mars, tout le monde fait l'actualité féministe. Alors nous aussi on va faire comme les autres de l'actualité féministe. Bon, ça va être plus récréatif que informatif. Et donc ça va plus parler de films, de livres, mais donc aussi bien sûr en rapport un petit peu quand même avec le féminisme. Alors, vous voulez ajouter quelque chose avant que je commence ?
Non.
Très bien. Alors, on va commencer, puis c'est moi qui commence. Donc, je vais vous parler du film La domination masculine. Vous avez peut-être entendu parler de ce film. Il est sorti donc le 25 novembre 2009. Et c'est un film qui était fait par un homme, donc Patrick Jean. Alors, ce film... Donc, parmi les féministes, il a fait un petit peu polémique. Et puis, moi, je l'ai assez apprécié. Donc, je vais vous le présenter d'abord. Je vais vous dire ce que j'ai aimé. Pour ceux qui l'ont pas vu, donc, c'est plutôt un film fait sous forme de documentaire avec des séquences qui alternent donc des séquences de reportage et puis des séquences d'interview. Et qui progresse comme ça. Alors moi, c'est une des choses que j'ai trouvé très très agréable dans le film. En fait, c'est que il y avait cette progression, c'est-à-dire qu'on partait finalement de choses assez banales en fait, assez ordinaires qu'on pourrait trouver dans des magazines people, un peu style le rallongement de. Pourquoi les hommes se font-ils rallonger la bite? Voilà. Donc Patrick Jean s'intéresse à la question pour commencer et il a interrogé les patients, les médecins sur la question qu'est-ce que contient ce rallongement de la bite comme symbolique. Donc ça commence comme ça et puis ça progresse donc avec des filles après qui nous racontent donc elles participent à un speed dating, donc c'est des rencontres rapides en fait, c'est dans des bars, donc ça permet de rencontrer rapidement un partenaire. Et donc ces filles nous expliquent qu'est-ce qu'elles recherchent chez les hommes qu'elles rencontrent. Et donc, elle nous explique notamment, par exemple, qu'elle recherche des hommes qui gagnent plus qu'elle, des hommes qui sont parfois plus, enfin, qui peuvent être plus forts qu'elle pour les sécuriser. Donc, des filles qui se, finalement, qui se conforment bien à ce que nous on appelle le patriarcat. Voilà. Donc Patrick Jean, il fait son film comme ça, c'est-à-dire il commence un petit peu sur des choses un petit peu ordinaires, que j'appellerais du sexisme ordinaire, de l'oppression finalement un petit peu ordinaire. Et puis, donc ensuite, il s'invite à la Grande Récré, donc il nous fait visiter le magasin de la Grande Récré. Et puis petit à petit, voilà, il progresse comme ça vers des choses beaucoup plus violentes, en fait, vers des choses beaucoup plus inadmissibles. C'est-à-dire qu'à un moment, on en arrive à des interviews de femmes qui ont été dans des situations de violence dans leur couple et qui y sont restées parfois des dizaines d'années et qui nous expliquent aussi pourquoi elles y sont restées, pourquoi... voilà. Donc, cette progression, finalement, de l'ordinaire vers l'inadmissible, elle amène après assez naturellement l'idée qu'il faut un petit peu lutter contre cette chose inadmissible. Et c'est ce qu'il fait. Donc, après, il va au Québec et il va filmer les féministes au Québec et il les fait parler un petit peu de leur lutte, de la lutte politique. Donc, ça, c'est une partie, finalement... beaucoup plus explicative là du féminisme. Également, il montre au Québec il y a tout un mouvement masculiniste, donc il s'intéresse également aux idées du mouvement masculiniste. On pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, pareil là, enfin, en même temps qu'il nous parle des féministes, il nous amène sur un drame qui s'est passé au Québec où donc un homme a tué des jeunes filles qui étaient dans une école d'ingénieurs en fait, en disant qu'elles représentaient une menace en quelque sorte pour la société en fait, hein, du fait d'acquérir ces postes à pouvoir. Et donc il est rentré dans la classe et il a tué une quinzaine de personnes comme ça. Voilà. Et voilà, le film se finit donc avec les masculinistes et puis revient un petit peu sur des images de violence à nouveau, des images de crimes conjugaux, quoi, où des hommes tuent leurs femmes, donc assez violentes, pour finalement un petit peu entériner la légitimité de la lutte politique. Donc moi, c'est une des choses que j'ai bien beaucoup aimé dans le film, en fait, c'est qu'on progressait de l'ordinaire vers le féminisme. Et qu'en fait, ça m'a donné le sentiment, en fait, que ça valorisait en quelque sorte, ça valorisait en fait le fait d'être féministe. Et en tout cas, ça rappelait beaucoup la légitimité, hein. Donc après, je pense que beaucoup des images qu'on voit, c'est sûr qu'on les a déjà vues. Hein. C'est des choses pour la plupart qu'on sait. Il y en a quelques-unes qu'on découvre. Mais par contre, la façon dont ça progresse, effectivement, on est bien obligé de constater que c'est encore légitime de revendiquer et l'égalité et la lutte contre les violences et etc. Voilà. Bon, est-ce que là-dessus vous vouliez intervenir? Tatiana.
Alors, je suis assez d'accord sur la progression et j'ai trouvé vraiment intéressant cette idée de continuum qu'il y a en fait entre ce qu'on peut rencontrer au quotidien qui paraît relativement anecdotique, voire assez normal. Bon, voilà, qu'une femme gagne moins qu'un homme finalement, bon, est-ce que ça pose vraiment question, tout ça. Et voilà, de faire un système. Après, le reproche, enfin, il y en a d'autres et on aura le temps d'en discuter un peu plus tard, c'est que. Du coup, ça fait un peu touche à tout, et je ne sais pas, mais je me rends pas compte puisque évidemment les seules personnes que je connaisse qui ont vu ce film étaient convaincues, voire étaient déjà féministes. Je suis pas sûre que pour quelqu'un qui approcherait la question au moins un peu sensible, parce qu'on va pas voir un film qui s'appelle La domination masculine complètement par hasard, sachant que je pense qu'il a vraiment une décision très anecdotique, enfin très peu, enfin il était très peu diffusé, je pense. Moi, je l'ai vu à Paris, on était 7 dans la salle, enfin voilà, dans une petite salle de Paris, donc je me dis qu'on n'a pas dû être très nombreux et nombreuses à l'avoir vu. Mais bref, du coup, dans l'idée que quelqu'un l'ait vu et qu'il ne soit que très peu informé ou qui ait très peu réfléchi à ces questions-là, je ne sais pas si les liens sont si évidents et si, voilà, je n'arrive pas à savoir si justement cette progression-là, elle est si simple à saisir. Ça peut faire aussi un peu, touche un truc, on touche un autre chose, et du coup, ça peut aussi donner l'impression de quelque chose d'assez parcellaire, en fait. Voilà. Mais après, moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé aussi, bon, il se trouve que j'avais appris peu de temps avant la question du massacre de l'école polytechnique au Québec, et que je trouvais intéressant justement qu'on en parle. C'est quelque chose que moi-même, dont j'ignorais l'existence deux mois avant.
Et oui, donc, c'est dans les années 90.
C'est 89, assez... en fait. Ouais, c'était les 20 ans. Ouais. C'était les 20 ans, il y a très peu de temps. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que du coup, on en a entendu parler. Mais voilà, du coup, je trouve intéressant du coup de mettre ça en valeur. Après, c'est clair qu'on n'apprend pas un milliard de choses, mais ça fait toujours du bien. Mais voilà, moi, je lui ferai un peu le même reproche qu'à Michael Moore, par exemple, dire que c'est un peu comme faire un film sur le capitalisme, c'est que c'est tellement vaste que du coup, ça en perd parfois la portée un peu des choses. Et puis, voilà.
Ouais. Moi, vas-y, tu voulais dire quelque chose.
Non, mais c'est bon, vas-y.
Non, mais si, ben ça va un petit peu enchaîner. Mais effectivement, t'as raison, il touche à tout. Mais moi, par rapport aux personnes justement qui sont allées voir le film, qui sont pas forcément féministes, alors bon, qui sont peut-être un petit peu impliquées politiquement, mais ils aimaient bien le côté je m'intéresse aux hommes et je m'intéresse aux femmes. En fait, c'était pas tellement la progression. Moi, la progression, je l'ai vraiment ressentie parce que, à un moment, j'ai ressenti vraiment de la tristesse, donc, de ce massacre, et aussi des images et des témoignages des femmes qui racontaient pourquoi elles étaient restées dans des situations de violence. Mais, ouais, le massacre, quand il fait parler aussi les familles, voilà, c'est en ça que je trouvais vraiment qu'il y avait une progression, c'est-à-dire que, qu'à un moment où vraiment ça prenait, la domination masculine prenait des proportions. Alors qu'au départ, tu vois, quand ils filment les talons, bon, ça fait plus sourire. Je sais pas, ou la grande récré, même la visite de la grande récré, bon, tu t'indignes à la limite, mais.
Mais en fait, sur le blog de Patrick Jean, il y a des réactions des hommes qui sont pas forcément sensibilisés aux questions comme ça de la domination et tout. Et en fait, ce qu'il lui reproche, c'est de dire oui, mais du coup, il essaie de nous manipuler parce que justement, il parle de trucs anodins et après, il rentre dans l'émotionnel. Et du coup, ça fait que tous les hommes sont des violeurs, des agresseurs et ils s'identifient pas à ces hommes qui sont montrés au final, quoi. Parce qu'il trouve qu'il est. En fait, le film est trop à charge contre les hommes.
D'accord. Vas-y, Tatiana.
En même temps, ça s'appelle la domination masculine. Donc ça paraît logique. Je peux comprendre. Enfin, dans le sens où. Enfin, après, moi, je suis pas forcément pour qu'on fasse un film où on parle un peu des hommes, un peu des femmes. Et des fois, je trouve que c'est bien d'avoir un point de vue et d'y aller de façon carton. Enfin, ne serait-ce que. Mais c'est vrai que du coup. Voilà. Enfin. Il n'y a pas tant les deux points de vue, il y a surtout le point de vue au tout début où il y a les mecs qui veulent se faire rallonger la bite et à la fin les masculinistes qui sont quand même d'odieux personnages, il faut bien dire ce qu'il est, qui sont quand même caricaturaux d'eux-mêmes et qui font peur pour le coup, je suis d'accord avec ça, c'est que ça peut montrer l'extrême et c'est vrai qu'on... peut-être moi ce que je trouvais aussi c'est que du coup... ça démonte pas, mais le problème c'est qu'on peut pas. C'est difficile à montrer. C'est que voilà, je me souviens des discussions qu'on a eues en sortant du film. Ça démonte pas la domination masculine telle qu'elle est insidieuse dans le tous les jours. Alors un petit peu avec les nanas qui veulent gagner moins que leurs mecs. Mais finalement, moi, ce que j'aurais aimé, mais après forcément, c'est des choses sur lesquelles peut-être j'ai avancé un peu, c'est d'arriver à le apercevoir dans des rapports beaucoup plus anodins. Enfin voilà, des rapports de couple. Bon après, on le sait aussi, mais dire que je trouve que du coup, le côté spectaculaire fait que finalement, on peut très bien s'en sortir. En disant, bon, il y a ces horribles masculinistes, il y a ces mecs un peu bizarres qui veulent se faire allonger la bite, mais. Et puis il y a ces cruches qui veulent. Mais du coup, on. Voilà. Alors, il y a un tout petit truc par rapport à ça, quand même, c'est que je trouve une scène qui est, pour moi, qui m'a vraiment marquée, et que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est des choses qu'on ne voit jamais. C'est qu'il y a une scène où Patrick Jean filme un homme qui retouche des photos de publicité. Et donc, donc en direct, évidemment monté, mais on assiste à une photo d'une femme, voilà, qui est tout à fait normale. Ce serait un mot que j'aimerais pas employer, mais qui apparaît pas ni mince ni grosse. Elle paraît, voilà, relativement dans une sorte de moyenne. C'est difficile à dire, mais voilà. Et donc déjà, et en fait, on le voit modifier la photo, et même si on sait que les photos, elles sont retouchées, même si on sait que ce qu'on nous montre dans les publicités n'existe pas, le fait de voir la transformation, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire que même, ils vont jusqu'à réduire la taille des pieds, réduire la taille des mains, parce qu'il faut pas avoir trop d'assises, allonger le cou, enfin faire de ça. Bon, évidemment, on enlève de la graisse sur les cuisses et tout ça, bon, ça c'est... Et même les seins sont retouchés, non pas à partir d'une réalité, mais par rapport aux mannequins et par rapport aux standards qui existent dans les magasins. Donc, moi, voilà, ça c'est vraiment la chose qui, indépendamment de la question de l'école polytechnique, qui m'a beaucoup marquée, c'est que je trouve qu'on ne mesure pas à quel point les photos sont retouchées et que j'ai beau être féministe et j'ai beau savoir que ça n'existe pas dans la réalité, ça n'empêche pas que ça a un impact sur ce que je vis tous les jours et que ça m'a fait du bien de voir ça. Ça m'a permis de...
Qu'est-ce que tu sais pas qui n'existe pas ?
Le fait que ce soit retouché à ce point, je trouve que c'est on mesure pas. Et alors, ce qui est terrible, c'est que le mec finit en terminant en disant, mais bien sûr que ces filles n'existent pas, mais enfin tout le monde le sait, enfin, sauf que c'est faux. Ouais, c'est on vit fou. Tous et on tous et toutes et on est forcément, enfin en tout cas voilà, moi je sais qu'à titre personnel, je suis prise dans ces représentations là et que je trouve mais ça aurait mérité presque par un film en entier. Mais voilà, ça, je trouve qu'il donne envie d'accrocher sur des choses et qui voilà, ça permet pas la globalité de la question qu'il traite ne permet pas justement d'approfondir ces questions-là.
Oui, la question de l'image. Mais moi, maintenant, je remarque dans les affiches l'agrandissement des yeux disproportionnés par rapport au visage. Maintenant que je le sais, qu'on modifie tout, je l'ai remarqué, mais ça ne change rien. Tu voulais dire autre chose ? Allez, je vous passe juste un petit peu de musique, et puis on reprend après.
Je te dis toi-même, je ne suis pas de celles-là qui disent des mots tendres, qui se laissent prendre peur en mal de surcroît. Tu me dis je t'aime, je te dis la ferme, on ne mourra pas comme ça. Au grand sentiment, je préfère un amant, un de ceux qui ne parlent pas. J'aime pas les de boule, les mélos qui coulent, tout cet amour m'exaspère. Je suis pas mon rose, je vois la vie en rose, je suis pas du tout déprimée. Je veux pas qu'on me chuchote des mots bleus en toc à l'oreille toute la journée. Journée. Je veux qu'on me chuchote des mots bleus en
êtes revenu sur l'émission Lilith Martine et les autres sur Radio Canu, l'émission féministe 102.2. Donc, on parlait de la domination masculine, le film de Patrick Jean, et on parlait de une sorte de progression dans le film. Moi, la deuxième chose que j'ai pas mal aimé dans le film, c'était un petit peu finalement une sorte, je crois que même lui a employé ce mot-là, une sorte de systématisation. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que la domination masculine, c'est pas un hasard, c'est un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en dehors du fait que, en gros, les hommes et les femmes pensent tous que, c'est mieux d'avoir une plus grande bite, un meilleur salaire, en tout cas que les femmes recherchent ça chez les hommes recherchent ça chez eux aussi, bien sûr, mais bon, ça paraît plus normal. Voilà, il y a aussi toute la partie, finalement, qui s'intéresse aux valeurs, à l'éducation, en fait, qui sont transmises, c'est-à-dire la visite de la grande récré. Et ça, c'est un grand moment, moi j'ai trouvé un grand moment du féminisme. Donc, une visite de la grande récré avec un vendeur de la grande récré. Vous vouliez peut-être en parler aussi.
Vas-y, fais la présentation, on commentera ensuite.
Alors, voilà, moi je me rappelle bien, donc les premières choses, c'était bien sûr les habits, alors le rose pour les petites filles, bien sûr. Il n'y a pas de costume du tout. Hein, quand vous êtes une petite fille, Tommy Boy, un peu ce qu'on dit en anglais, là. Petit peu garçon manqué, enfin qui aime pas les habits de princesse. Ben, si vous voulez vous déguiser, il faut vous démerder parce que à la grande récré, ils vendent que des habits de princesse. Et puis alors pour les garçons, vous avez des habits qui valorisent plutôt le combat, la violence. Donc voilà, vous avez toute cette visite, alors avec aussi tous les instruments qui parlent du mimétisme, alors c'est-à-dire les cuisinières, les fers à repasser, les aspirateurs, et voilà. Alors tout ça, c'est au rayon filles, parce que les petits garçons, eux, ils savent pas copier sur ni maman ni papa, d'ailleurs parce qu'on sait pas qui à la maison fait ça, mais le vendeur part du principe que, en tout cas, c'est sans doute maman qui fait ça. Voilà, et que c'est les filles qui vont copier maman. Voilà. Ensuite, il y a la partie sur les livres qui est intéressante aussi parce que s'intéresse aux représentations des petites filles dans les livres, en fait, des personnages féminins. Et les personnages féminins dans les livres, ils sont représentés en situation d'attente. Donc, ils sont représentés à l'intérieur des maisons, plutôt. Et puis, ils regardent vers le dehors, ils regardent les personnages masculins, les garçons aussi, qui jouent, qui font des choses, en fait. Voilà, donc ça, c'est une des deuxièmes symboliques que j'ai trouvées assez importantes, finalement, qui était représentée dans toute la littérature enfant. Donc, des filles qui sont en situation assez passive, en situation d'attente. En dehors aussi de ce passage sur la grande récré, il y a ce passage aussi sur la place publique, en fait, où ils filment les chaussures. Et quand ils filment les chaussures, on a que des femmes qui sont montées sur 10 centimètres, qui sont au bord de la chute, alors que les hommes sont armés de rangers et de chaussures beaucoup plus stables, beaucoup plus solides, qui vont leur permettre de se battre. Donc voilà, ils montrent en tout cas un petit peu qu'est-ce qui est valorisé dans le féminin et dans le masculin. Donc, à la fois quand on est petit, quand on grandit, et puis après aussi, comment ça se retrouve après dans le travail, parce qu'il s'intéresse aussi, à un moment, il filme des femmes au travail, des femmes dans les usines, donc dans des postes plutôt subordonnés, hein, avec des chefs hommes. Par contre, il n'y a pas de passage sur les femmes dans les postes à pouvoir, je crois. Hein. Non, il n'y en a pas. oui, alors est-ce que on a des chiffres là sur le travail? J'en avais trouvé dernièrement, si vous en voulez. Ah oui, voilà, dernièrement, donc les derniers sondages nous disent que les femmes sont rémunérées 27% de moins que les hommes pour des travaux égaux. Voilà. Et que l'écart de salaire augmente en fonction du niveau d'études, c'est-à-dire que plus on fait d'études, on passe à 32% d'écart de salaire après quand on est très diplômé. Donc arrêtons de faire des études, hein, écoutez. Bon, je vous passe tous les chiffres sur le travail parce qu'il y en a plein, sur le chômage, enfin bref. C'est ça, la systématisation, c'est que ça touche tous les domaines de la société. Et voilà. Alors, Sophie, tu voulais dire quelque chose?
Non. D'accord. Non, pardon, je voulais réagir un peu par rapport à ça. Notamment, j'ai trouvé que le passage dans la grande récré est assez édifiant parce qu'en fait, on avait déjà fait d'ailleurs une émission sur les jouets sexistes en décembre 2008, de mémoire. Et même si on sait que ça existe, c'est difficile d'imaginer que ça puisse être à la fois justifié et légitimé par un vendeur qui explique que les petites filles, elles ont besoin d'être jolies et d'être des princesses, que les garçons vont à l'extérieur, qu'ils vont faire des jeux de construction beaucoup mieux. Enfin, c'est-à-dire que tout ce qu'on dénonce et qu'on dit, et qui quand même a été dénoncé depuis au moins les années 70 avec le livre du côté des petites filles, est reproduit, est systématisé et légitimé. Et c'est vrai que c'est assez... c'est assez impressionnant. Encore une fois, c'est des sujets qu'on a déjà abordés, qu'on aura sûrement l'occasion de réaborder aussi. Mais c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui le dit avec une naïveté telle qu'on a l'impression qu'il a été payé pour faire le gentil gars qui justifie ce qu'on aurait envie de lui faire dire.
D'ailleurs, il y a un livre, je vous rappelle, qui est paru en 2007, qui s'appelle « Contre les jouets sexistes », qui est fait par un collectif aux éditions de l'Échappée, hein. Donc qui parle un petit peu de tout ça, quoi, de tous ces jouets qui sont faits finalement pour conditionner à un rôle ou à l'autre. Excuse-moi, vas-y.
Non, mais voilà, du coup, c'était juste ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je crois que tu avais aussi envie d'aborder les questions que justement Patrick Jean n'a pas abordées.
Oui, alors c'était le troisième point du film que j'avais bien aimé, c'est-à-dire que chez les féministes, figurez-vous, il y a des engueulades sur certains sujets, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Et donc Patrick Jean, dans le film, les évite, ces sujets. Alors bon, c'est très bien, hein, c'est, du coup, on ne s'engueule pas. Donc, par contre, malheureusement, dernièrement, donc j'ai lu un article dans Le Monde. Hein, il a fait un film féministe, donc il a une reconnaissance quand même. Bon, ça, c'est peut-être le côté aussi un petit peu énervant. Donc, c'est un homme qui a fait un film sur le féminisme. D'un coup, il a une reconnaissance. C'est pas sûr que si c'était une femme, elle aurait eu la même. Hein. Mais bon. Donc, Patrick Jean, dans Le Monde, il choisit de nous parler de la prostitution. Et là, c'est un sujet d'engueulade chez les féministes, la prostitution. Donc, malheureusement, il a choisi un avis qui n'était pas le mien. Donc voilà, je continue d'aimer son film, mais par contre, vraiment, sur la prostitution, faut qu'il arrête de se mettre à la place des personnes qui parlent. Alors, il cite pas l'autre film hein, qui est sorti dernièrement, peut-être dont on aura l'occasion de vous parler une prochaine fois, qui s'appelle Les travailleuses du sexe, qui est fait d'interviews en fait hein, de personnes qui ont comme métier donc celui de vendre des services sexuels. Moi j'ai trouvé très bien ce film. Et donc lui, dans l'article qu'il a écrit dans Le Monde là du 20 mars, il discrédite l'opinion, il discrédite l'avis de ces personnes en fait. Je trouve ça très dommage. Et il renvoie simplement au fait que il faut interdire la prostitution pour protéger les plus faibles, les victimes, et voilà, il compare la prostitution à un viol, et que voilà, et donc bien sûr, si on compare la prostitution à un viol, ça devrait être interdit. Donc il oublie tout le côté négocié, consenti, etc., de la prostitution. Donc Patrick Jean n'est plus mon ami. Voilà, vous vouliez rajouter quelque chose, ou je passe un peu de musique?
Sur les réactions en fait qu'il y a eu aussi, enfin c'est intéressant d'aller sur son blog parce que il s'est passé des choses lors de projections où lui il venait présenter son film et notamment un homme qui lui a dit moi je vous filme sans vos autorisations comme vous avez fait avec Zemmour, et là il y a une femme qui s'est interposée et ça a créé vraiment des tensions fortes à plusieurs moments,
donc ça a failli se battre quoi.
Ouais.
Comme quoi, il y a eu des réactions, parce que c'est vrai que moi, j'avais l'impression qu'il avait été diffusé tellement de façon tellement confidentielle que on n'était que trois à en parler aujourd'hui, quoi. Mais comme quoi, ça a pu avoir des réactions pour de vrai, quoi.
Oui, il y a eu souvent des débats. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est, il y avait beaucoup de femmes, apparemment. Enfin, moi, j'y suis pas allée, mais qui défendaient surtout l'homme qui avait été violent et qui se repentait, comme quoi lui il avait beaucoup plus de mérite parce qu'il arrivait à faire ça, et ça marquait beaucoup plus les personnes qui voyaient le film que les femmes qui elles étaient victimes. Mais bon, ça c'est normal.
Bah oui, ça fait partie d'un système, c'est logique, hein, je veux dire, bon.
Ouais, en tout cas, c'est un film, moi, enfin, j'ai quand même un bon souvenir, hein, parce que vraiment, on apprend des choses, comme Tatiana avait dit, et puis, il y a de l'émotion, enfin, on n'est pas figé, moi, on voit pas le temps passer, hein. Pour un film documentaire, franchement, j'ai trouvé très bien réussi. Et, en fait, il a fait, 50 à 60 000 entrées en France, apparemment. D'accord. Voilà. Et puis, il devrait sortir en DVD. Sinon, vous pouvez avoir plus d'informations sur Internet. Il y a un film, il y a un site www.ladominationmasculinetoutattaché.net ou www.patrickjean.net. Voilà. Mais c'est un personnage qui s'intéresse aussi à d'autres formes de domination. Hein. Sinon, il n'est pas opportuniste, je pense, dans sa façon de faire, mais parce qu'il s'est intéressé à la pauvreté, il s'est intéressé à d'autres formes de domination, en fait. Hein. Mais voilà, son film, il a finalement été... moi, je l'ai trouvé finalement assez bien, malgré ses positions sur la prostitution. Voilà.
Lola is feeling alone tonight. When the city is full of light, Lola is feeling alone tonight. Even the stars are not in the sky.
C'était une interruption brutale. Donc, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, on a écouté Zaza Fournier, Les mots toquent. Et là, c'était Isia. Donc, je précise, c'est la fille de Jacques Higelin. Hein. C'est... Ah, je n'ai pas le droit de préciser. Et le titre, c'est Lola. Voilà. Allez, à toi, Sophie.
Alors, maintenant, on va vous parler un peu du livre de Badinter qui a fait fureur et polémique chez les féministes encore. Donc, le livre, c'est Le conflit, la femme et la mère. Donc, je vais vous expliquer en gros de quoi il en retourne dans son livre et puis les réactions ensuite que ça a suscité. Donc elle dénonce le diktat de l'écologie, qu'elle dit anti-féministe, et elle explique pourquoi pour elle le bébé est devenu le meilleur allié de la domination masculine. Donc avant tout, elle dénonce les mères qui allaitent, lavent leurs couches, font des brocolis bio pour leurs enfants, parce que pour elle, ça renvoie les femmes à la maison. Pour elle, ça entrave la liberté qui est plutôt basée sur le progrès technique. Alors elle dénonce notamment la taxe sur les couches jetables par Kosciuszko. J'arriverai pas.
Nathalie Kosciuszko-Morizet, c'est ça?
Oui, mais je sais pas. Alors, elle s'indigne aussi contre le décret Kouchner en 98 qui interdit la pub pour les laits en poudre dans les maternités. Et elle dénonce notamment la Lecce League, enfin, je sais pas trop comment on dit,
je crois que c'est ça.
Mais qui conseille les femmes pour allaiter, en fait. Et elle trouve que, justement, elles encouragent trop les femmes à allaiter. Et en fait, pour elle, il y a eu un changement de génération. Depuis les années 80, il y a un changement dans la conception de la maternité. Donc, c'est les femmes qui remettent la maternité au cœur de la féminité. En gros, elles ont été un peu délaissées par leur mère qui s'émancipait et du coup, elles veulent retourner à quelque chose de vraiment être une mère très bonne, parfaite, quoi. Donc, pour elles, c'est réactionnaire. Et elle dénonce, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle dénonce la discrimination subie par celles qui veulent pas d'enfants. Elle parle d'un retour du naturalisme. Et donc voilà, tout ce qui est idéologie de la mère nature, elle évoque une nouvelle tyrannie qui soumet les femmes à des lois contraignantes qui font qu'elles retournent à la maison parce que il y a l'instinct maternel qui les agit, quoi. Elle dénonce le trop de précautions que prennent les femmes de nos jours, la condamnation du tabac et de l'alcool pendant la grossesse, le fait d'allaiter les enfants longtemps, la réticence face à la pilule, la méfiance à l'égard de la chimie et de l'agroalimentaire. Elle dénonce toute l'écologie, enfin sans faire de distinction. J'ai dit une connerie.
C'est pas toi.
Non, mais c'est Baden Zer, faut quand même pas qu'elle charrie, quoi. Autant Patrick Jean, il met tout dans le même sac, mais alors là.
Et là, alors du coup, on va voir maintenant les réactions un peu, bon, avant les votes de plusieurs femmes qui lui répondent, qui sont pas très contentes, parce que du coup, elle se réfère tout le temps au modèle de la société de consommation. Du coup, c'est un peu comme si c'était Nestlé et Pampers qui allaient nous sauver, nous libérer, nous les femmes. Et bon, après, il y a aussi le fait que les couches, finalement, ça pollue aussi. Il y a 5000 couches par enfant, vu qu'il est... Enfin, c'est un peu technique, hein, mais il les utilise pendant 2 ans et demi. Donc, ça fait plus d'une tonne de déchets par enfant. Mais bon, en fait, sans cela qu'on utilise des couches jetables ou pas, les problèmes, en fait, là, elle les déplace. Les problèmes les plus importants, ça reste les inégalités des tâches ménagères et la différence des salaires entre les hommes et les femmes, parce qu'après, si l'homme est impliqué à la maison autant que la femme, c'est quand même possible d'allier les deux, enfin d'allier écologie et féminisme. Et voilà, en fait, du coup, elle, on lui reproche aussi d'être actionnaire, c'est la première actionnaire de Publicis, donc le conseil de surveillance dont Nestlé est le client, et dont son père est le fondateur. Et elle s'insurge. En fait, elle s'insurge contre les femmes enfin, pour dénoncer les inégalités dont elles sont victimes.
Qu'est-ce que t'as dit là avec Publicis ?
En fait, c'est une bonne agence de publicité dont elle fait partie du conseil de surveillance. Et Nestlé est un des premiers clients de Publicis, qui est une agence de pub en fait. C'est eux qui font toutes les pubs pour les,
d'accord,
notamment pour les maternelles.
Voilà, ils font notamment des pubs très sexistes aussi. Et ça, elle le dénonce pas du tout, quoi. Et voilà. Et en fait, du coup aussi, ce que pas mal de femmes disent, c'est que du coup, les femmes qui choisissent d'essayer d'être écolo en s'occupant de leurs enfants, en général, c'est des femmes cultivées qui ont réfléchi à ça et qui ont quand même le choix ou non de nanana, tout ça, quoi. Donc, du coup. D'Inter, elle amalgame un peu le naturalisme qui ferait qu'on serait comme des mammifères et l'écologie. pour elle, c'est la même chose. Donc, elle dit que le féminisme, c'est antinomique avec l'écologie. Et elle associe la mère parfaite à une mère écolo. Enfin, les caricatures un petit peu. Puis, on peut choisir d'essayer de faire des efforts sans pour autant faire tout ce qu'elle dit de manière extrême, quoi. Donc voilà, du coup elle déplace un peu le problème parce que notre but c'est pas de se transformer tous en hommes hyperactifs, toujours en train de travailler et à fond dans la société de consommation. Et voilà, en fait, bon, du coup, juste un dernier petit point. Elle s'insurge, comme on a dit, contre la Lecce League. Mais en fait, cette ligue, elle donne juste des conseils pour les femmes qui veulent allaiter, mais elle culpabilise pas les femmes qui veulent pas. Et c'est avant tout l'industrie laitière qui est beaucoup plus puissante qu'un petit lobby en faveur de l'allaitement.
Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable pendant 2 secondes, c'est normal. Dans un premier temps, quand j'ai lu l'article dans Libération sur Badinter, son interview, j'avoue que ça m'a fait du bien, en fait. Moi, je suis typiquement dans la catégorie des personnes qui devraient faire des enfants aujourd'hui, mais qui n'en ont pas envie. Donc, j'avoue que ça m'a fait du bien, ça m'a un peu soulagée de me dire, ah, cool, en fait, bon, quand même, voilà. Après lecture, d'abord parce que, enfin, d'aller un peu plus profond dans ce qu'elle dit, en apprenant notamment qu'elle était donc la première actionnaire de Publicis, forcément ça pose question. Moi je trouve que l'idée de dire attention, on pourrait effectivement dans un contexte économique, social où peut-être qu'on est moins porté sur l'action politique et parfois se retourner un peu sur sa vie de famille, de couple ou pas, la maternité c'est pas tout ce qui fait une femme et on n'est pas besoin, enfin voilà, de remettre ça remettre ça en question, de redire ça fait du bien, je trouve, mais c'est vrai que le reste de ce qu'elle est, de ce qu'elle dit, pour moi décrédibilise largement ça aussi. En fait, le truc, c'est que c'est une bourgeoise qui vend de la publicité et du lait maternel. Et du coup, moi, je trouve que ça remet en question beaucoup de choses de ce qu'elle dit. Et c'est dommage parce qu'en même temps, je trouve que, quand même, voilà, rappeler qu'on n'est pas, que la maternité n'est pas forcément le but en soi d'être d'une femme, je trouve que ça fait du bien de l'entendre. Et juste. Un tout petit truc, c'est que la Lecce League, pour moi, c'est pas uniquement des gens qui donnent de l'information, et il y a effectivement, je trouve, une pression sur le fait d'allaiter, et sur quand même dans un certain milieu très particulier aussi, il faut bien voir qu'elle s'adresse, je sais pas à qui, mais, enfin, je veux dire, les personnes qui prennent des couches lavables, qui allaitent parce que c'est mieux, et qui font des petits pots bio, enfin, c'est pas non plus la majorité des femmes aujourd'hui, loin s'en faut. Et je pense que d'abord, elle se trompe de combat vraiment, et ensuite, très clairement, elle a pas une analyse sociale des choses non plus, c'est pour ça que ça a pas beaucoup de sens. En fait.
Oui, alors il y a une membre de Radio Lilith qui vient d'avoir un enfant.
Oui, monsieur, mais
alors je sais pas ce qu'elle pense de tout ça, c'est dommage qu'elle soit pas là pour en parler, mais la pression à l'allaitement, en fait, elle l'a ressentie, mais pas du corps médical. Voilà, je tiens à dire ça. C'était de la part de ses amis, de sa famille. Donc faites attention autour de vous, ne mettez pas la pression aux femmes pour qu'elles allaitent. Voilà. Si elles doivent le faire, elles le feront. Et la deuxième chose, moi, que je voulais dire, je t'ai coupé, Tatiana.
Pas du tout.
Non, c'est bon. En fait, j'ai entendu hier une émission assez drôle, ou hier ou avant-hier, je sais plus. C'est pour revenir sur l'argument naturaliste. Alors moi, je suis pas du tout naturaliste, mais quand même, il y a un chercheur qui s'appelle Franz De Waal qui a fait une étude sur les animaux et qui s'est intéressé à l'empathie chez les animaux. Et en fait, je trouvais ça assez drôle. En fait, donc son livre s'appelle L'âge de l'empathie. Et du coup, en fait, il développe l'idée que les sociétés mammifères, en fait, elles peuvent pas survivre sans empathie, en fait. Et je me disais, est-ce que la fin du patriarcat va venir avec le naturalisme et le développement de l'idée d'empathie au lieu du développement de l'idée de compétition? Car si on peut pas combattre le naturalisme, alors si il se met à se transformer et à devenir pro valeur empathie, alors bien sûr, c'est les femmes qui dans la société sont plus formées à l'empathie et à donner de l'empathie, à consoler, à prendre soin, à comprendre les autres, etc. Bon, voilà, je me disais, du coup, alors peut-être c'est comme ça qu'on va reprendre le pouvoir. Voilà, c'est tout. Non, sinon, bas d'inter. Ben...
Mais il n'y aurait pas de la compétition chez les animaux aussi.
Si, mais il disait que jusqu'à présent, c'était ça qui était valorisé. Et c'était à cause de ça qu'on disait que les espèces survivaient, à cause de la compétition entre eux. La survie pour l'espèce, c'était les plus forts qui gagnaient. Et lui, en fait, il montre que chez plein de mammifères intelligents, en fait, sans collaboration, sans coopération, et donc sans empathie aussi, sans capacité à chercher à comprendre le problème de l'autre, donc chez les animaux, hein, eh ben, il pourrait pas survivre dans certaines situations. Donc en fait, il s'intéresse à ce côté-là, il le valorise en fait chez les animaux. Après, ça veut rien dire chez nous, on est d'accord.
Et puis alors, je pense que l'empathie passera pas uniquement par l'instinct maternel, cela dit, s'il existe.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, est-ce qu'on dit encore quelque chose sur Badinter et les écologistes? Non, sinon les magazines écolos, c'est vrai que ils ont tous un petit peu réagi en bloc, hein, face à ce qu'elle a dit, pour dire que c'était évidemment la question du choix, quoi. C'est-à-dire que les femmes, a priori, surtout dans les sociétés un peu occidentales, un peu bourgeoises, elles avaient un choix, quoi. Elles avaient un choix qui était relatif, bien sûr, comme tout choix. Et donc la question qui se pose, pour Badinter, en fait, on dirait que ce choix n'existe pas et que pour elle, il y aurait des sortes de valeurs, en fait, ou des sortes de situations qui seraient, qui aliéneraient les femmes de façon universelle. Alors, je ne sais pas si on peut dire que l'allaitement, la prise en charge des enfants fait partie. Mais c'est vrai qu'on voit mal comment la reproduction de l'humain pourrait intervenir sans prise en charge de ces fonctions-là, alors que ce soit les mères ou que ce soit les pères ou d'autres gens, je sais pas, ouais, mais bon, bref, allez, on va se perdre.
Bam 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 bam. Depuis des mois voire des années, j'attire ce type de type que l'on appelle les parasites. Non, n'allez pas me croire matérialiste, mais j'ai horreur de l'assister. Le plus insistant est resté un soi-disant artiste, je ne sais quoi. Drôle, charmant, bonne mine courtois. Il m'a fait ses yeux de mesquine et il m'a dit: je suis dans la mouise, j'ai pas de crèche pour cette nuit. Tu peux me dépanner, il fait froid, il y a de la pluie. C'est sympa, c'est cool, c'est gentil. Je lui ai juste dit: fais comme chez toi. Et depuis, il vit chez moi. Il ouvre mon frigo à tout va et squatte pendant des heures dans mon sofa. Et là, j'avoue. Et là, j'avoue, je craque. Et là, j'avoue, je craque. Il me saoule avec ses craques. Depuis des semaines, voire des années, avec ce ringard, je suis cloisonnée. Il boit comme un trou, c'est un camé. Il ne me sert à rien, entre nous, il est gay. Je passe mes soirées avec lui nez à nez. Pas marré, mais à tchatcher monnaie. Pas un copec, pas une thune, pas un rond, pas une bulle. Il n'a rien à lui, même pas un pull. Et quand il pose, c'est un cauchemar. Et moi je l'écoute, et moi j'ai le cafard. Depuis l'euro, j'ai plus un rond dans mon fazard. Cerné d'escrocs qui me poussent au jeu du hasard. J'existe seulement dans mes paplards. J'ai placé et caché mon passé au placard. Je ne vois plus mon avenir dans le mar. Il faut que je bouge dardard avant qu'il soit trop tard. Je ne suis qu'un parasite, un pauvre cafard. Je lui ai juste dit: barre-toi et paye ta part. Avec diplomatie, tu me saoules, il se fait tard. Et là,
je me dis, une nuit de dépannage, de
devenu un an. Je me noie, je surnage. Indécrottable, avec sa bière et sa roulée accoudée à ma table. Il me sidère, il fait trop bien, le mec minable. Ouais, je vais me bouger. Non, je rigole. Il te reste du cafetion dans ta cafetière. Je vais pas dormir. Une bonne mornifle, ça me remettrait les idées en place. Ça me remettrait les idées en place. J'ai la mouche et que même muchacho. J'avais pas la cota avec les muchachas. Pour oublier mon passé, je mets du chichi dans ma chicha. T'es choqué? Fais pas ta chochotte. Quand il me dit ça, j'ai envie de lui mettre un coup de botte. Et là, j'avoue, je craque. Il me saoule avec ses craques. Et là, j'avoue, je craque. Il me saoule avec ses craques. Et là, j'avoue, je craque. Il me saoule avec ses craques. Et là, j'avoue, je craque. Il me saoule avec ses craques. Et là, j'avoue.
Voilà, donc c'était Carrie Mouche, le titre Parasite. Ouais. À toi, Tatiana.
Alors, vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres. Après nos débats, on est un peu sur l'émission France Inter aujourd'hui, donc nous avons débattu de films, de livres, et donc maintenant c'est la chronique littéraire. Voilà, donc en fait, j'avais envie de parler d'une auteure. Au départ, en fait, quand on a imaginé l'émission, on avait l'idée de parler de plus de livres. Il se trouve que c'était le cas, mais il y avait des livres féministes. Moi, j'avais aussi envie de parler d'une femme qui écrit dans un genre où il y a peu de femmes qui écrivent, qui est le polar, le roman noir. Il se trouve qu'en plus, et là c'est là où on est vraiment très forte, c'est que la semaine prochaine il y a le festival Quai du Polar qui se passe à Lyon du 9 au 11 avril, qui est absolument pas un festival militant, mais qui est assez chouette. On peut rencontrer des auteurs, on peut voir des films, tout ça.
Et c'est où?
Et c'est, alors ils ont un site internet sur lequel on a toutes les informations. Quai du Polar, vous le trouvez dans Google, tout ça. Enfin, oups, pardon, copyright. bref, dans votre moteur de recherche, vous pouvez trouver Quai du Polar, vous le trouvez facilement. Et mais en général, c'est entre l'hétéro et les cordeliers. Bref, et à cette occasion-là, il se trouve qu'en plus, Dominique Manotti, qui est donc l'auteur dont je voulais vous parler, sera là. Donc ça peut, voilà, toute l'occasion, même si c'était pas du tout en connexion avec ça. Donc voilà, c'est vrai qu'on connaît souvent Fred Vargas, mais donc comme en l'occurrence, c'est pas d'elle dont il s'agit. Par contre, étonnamment, Fred Vargas et Dominique Manotti ont des prénoms qui passent dans les deux genres. Donc il faut croire que pour pouvoir être lu et publié dans le domaine du roman noir, il faut avoir un prénom qui puisse passer dans les deux genres.
Wow. Mais... c'est vrai, l'ambiguïté. Hein.
Attention. Hein. Cela dit, je pense que ça joue en partie. Parce que c'est vrai que... enfin, moi, j'ai appris assez tard que Fred Vargas était une femme, et Dominique Manotti, je l'ai su assez vite, mais c'est pas forcément évident. Voilà, donc c'est une auteure dont... j'ai découverte assez récemment, même si elle a écrit depuis à peu près 15 ans, qui est assez intéressante. J'ai découverte un peu par hasard et un peu aussi grâce à des copains de Grenoble qui ont une petite revue qui s'appelle Au bord du noir, qui est voilà, une revue éditée sur papier A4, mais qui est vraiment bien. Ils font des interviews régulièrement, ils ont un site internet aussi. De mémoire, c'est http://abdn.free.fr.
Au bord du noir, ça, c'est quoi comme revue?
C'est une revue de copains de Grenoble, vraiment consacrée au roman noir. Ah. Avec l'idée de... parce que contrairement au roman policier, le roman noir est plutôt axé sur une critique sociale. Et donc eux, c'est ce qui les intéresse aussi, c'est des copains assez militants par ailleurs. Et donc ils rencontrent des auteurs régulièrement, ils publient aussi des nouvelles, ou des éventuellement des nouvelles à eux, des chroniques. Et ils font des critiques de livres. Donc, ce qui est assez intéressant, parce que ça permet de, enfin, c'est un genre, moi, que je connaissais assez peu et qui est assez, enfin, qui, voilà, qui permet pas mal de choses. Parmi les auteurs, il y a donc Dominique Manotti, qui, elle, a une écriture assez particulière. C'est une historienne de formation aussi, comme Fred Vargas, décidément. Mais qui a écrit son premier roman, s'appelle Sombre Sentier. Il se passe dans les débuts des années 80, tout début des années 80, à l'occasion d'une grève de travailleurs turcs sans papier. Et donc on a à la fois une intrigue policière, voilà, avec des meurtres et tout ça, mais on a aussi beaucoup une critique et une description très précise d'un contexte social à un moment donné, voilà, avec les enjeux de pouvoir, les enjeux de lutte. Elle a ensuite écrit un autre roman qui s'appelle Fantastique années fric, qui parle du début des années 80, les années Mitterrand. Elle a écrit aussi un roman dans lequel je suis en plein dedans, qui s'appelle Lorraine Connexion, qui se passe au moment de du rachat de Thomson par Daewoo et des usines qui ont été délocalisées du jour au lendemain. Et donc le roman commence par une grève d'ouvriers. Voilà. Et donc vraiment son idéal, c'est, elle le dit d'ailleurs, c'est de contextualiser très précisément les romans qu'elle fait. Et c'est, voilà, même si effectivement il y a aussi quelque chose d'une intrigue, un peu de roman policier, c'est surtout, ça permet de décortiquer vraiment la société telle qu'elle fonctionne. Et voilà, ça a une portée politique très forte. Qui n'est pas par hasard, parce que, enfin, je vais juste vous citer c'est la présentation qu'elle fait d'elle-même sur son site internet, qui est donc dans laquelle elle se décrit comme militante dès l'adolescence, d'abord à la fin de la guerre d'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, puis dans les années 60 et 70, dans différents mouvements et syndicats, dans une tonalité qu'on pourrait dire marxiste et syndicaliste révolutionnaire, romancière sur le tard, et pas par vocation, plutôt par désespoir. L'arrivée de Mitterrand au pouvoir sonne, d'une certaine façon, comme le glas des espoirs de transformation radicale de la société. Alors le roman noir apparaît comme la forme la plus appropriée pour raconter ce que fut l'expérience de ma génération, et ma pratique professionnelle d'historienne m'a semblé l'outil adéquat pour tenter l'expérience de l'écriture romanesque. Voilà, donc, même si c'est pas très réjouissant, cette philosophie d'écriture explique aussi pourquoi ces romans ont une portée politique très forte. Le dernier qui vient de sortir, bon, ça fait vraiment genre, je fais la promotion d'une auteure qui passe au festival la semaine prochaine, mais ça s'appelle Bien connu des services de police et a l'air de porter sur la question de la politique de sécurité actuelle. Voilà, donc c'est vraiment cette occasion-là, et elle explique vraiment, notamment c'est dans un interview qu'elle avait donné aux copains qui ont fait au bord du noir, c'est qu'elle considère vraiment que le travail de romancier, c'est de faire passer la réalité d'une société à un moment donné à travers des personnages qui l'incarnent, donc c'est vraiment à des moments donnés. Et voilà, donc du coup je trouve que pouvoir, enfin que ce soit une femme qui écrive ce genre de roman, enfin pas, voilà, après c'est pas des romans, elle se revendique pas comme féministe, mais je trouvais que c'était intéressant pour en parler un peu, puisque elle permet à la fois vraiment une critique sociale, et puis c'est intéressant que une femme dans ce milieu-là puisse avoir une telle portée, quoi.
Mais c'est vrai, ouais, le support autre que le cours, c'est vraiment une bonne idée, et même le film, quoi. Enfin, le livre, moi je lis pas trop, c'est pour ça. J'aime mieux quand vous faites des films.
Et juste pour finir, si vous avez envie d'aller voir un peu à quoi, comment elle se présente et ce qu'elle ressemble, elle a un site internet www.dominiquemanotti, c'est écrit MANOTTI.com.
Merci.
Quelques infos? Alors, donc dans l'actualité lyonnaise, demain, non pas du tout, le 9 avril, il y a Avorté, histoire de lutte, à 15h à la griffe.
C'est pas le 10?
Ah, j'ai noté le 9.
Ah, il faut vérifier parce que non, je crois bien que c'est le 10.
Est-ce que la griffe peut avoir un site internet sur lequel on peut vérifier l'info, non?
Peut-être. Et le même week-end, oui, mais c'est ça, parce que c'est samedi 10, il y a le week-end d'autodéfense à l'atelier. Mais il faut s'inscrire avant. Et il y a la Lady Fest du 21 au 25 avril à Toulouse. Et voilà, sinon il y a aussi la prochaine émission, ce sera On n'est pas des cadeaux, et dans 2 semaines ce sera à nouveau Martine, Lilith et les autres avec une émission sur le stop. Et une petite dernière info, il y a Tumulte qui est sorti le 8 mars, enfin en mars, donc c'est un magazine, une petite revue féministe, c'est très intéressant, c'est des grenobloises qui font ça, donc elles parlent de la mentalité du mangeur de viande, de vagin, de famille, des femmes kurdes dans la lutte armée, de transgression et d'illégalité, enfin plein de choses très intéressantes.
Je peux juste rajouter une info.
Vas-y.
Vendredi prochain, à l'atelier, en fait, à 20h30, il y a une bouffe vegan en soutien à Kabiria. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Donc Kabiria, qui est une association de santé communautaire avec les personnes prostituées. Donc voilà, ça sera à prix libre, et puis il y aura des infos et tout.
Et encore une info d'ailleurs, la semaine prochaine, le 10 avril, donc du coup, qui est quand même un week-end très chargé, il y a une manif antifasciste qui a dû être déjà appelée sur Canu, mais l'après-midi, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est au terreau, genre à 14h30, mais
c'est à Bellecour,
à 15h. Voilà, donc ça peut être aussi l'occasion. Désolée, l'info n'était pas très claire, mais juste j'avais oublié.
Sinon, c'est sur Rébellion. Oui.
Bonne journée!
Sky, some paper. First. each. And one in the wagon, I bunch of the mattresses in three, which they all find so fucking amazing. So I get off the train, and after several drops, I drop an acid. I remember Roma's still waiting in the village behind me, but I forgot to see what station I got.